Interview.
L'interview du jour.
Alors aujourd'hui, là, si on devait trouver un fil directeur, ce serait plutôt une surface directrice. Et on va vachement parler de terre. On va commencer par parler, puis on va s'éloigner un peu. On va commencer juste à côté. À Pluviane, il y a de la fabrication de compost et Maëva qui nous parlera de ce qui se passe à Pluviane. Et puis ensuite, on franchira l'océan et on ira sur une terre qui nous est lointaine, mais pas si lointaine que ça, parce qu'on a déjà parlé à Erdiwa ou dans Feu de Toutbois avec Juan qui est là pour nous parler de ce qui se passe avec les camarades Mapuche en ce moment. On a parlé mardi soir pour les auditeurs auditrices nocturnes. Qui on les a appelés à venir faire de la peinture sur les bacs à compost à Pluviane, mercredi, donc hier, mercredi après-midi. Qu'est-ce que c'était que cette histoire, Maëva?
Simplement, il y a 4 mois, on a fait une demande d'installation de bacs de compostage pour les HLM de Pluviane. Et ça marche plutôt bien. Donc on a déjà un peu de terreau, enfin encore en transformation, en cours. Mais voilà, les gens, il y a quelques habitants qui se sont prêts au jeu et voilà, avec leurs petits seaux chez eux, ils mettent leur compost, enfin leurs déchets ménagers organiques, donc leurs épluchures de légumes, et ils le mettent dans leur petit bac à compost. Et voilà. Et en fait, donc hier, on a organisé. Un petit atelier de décoration pour continuer la lancée, de se dire que c'est les nôtres, en fait. Ils sont venus un peu ils sont un peu venus du ciel, donc on ne s'approprie pas toujours les choses quand elles nous viennent facilement. Et là, on a fait des super beaux dessins dessus et c'était vraiment excellent, le temps était avec nous aussi. Et donc il y a eu beaucoup d'enfants, il y a eu quelques adultes qui sont venus, des gens de l'extérieur, pas forcément de Pluviane. Et on s'est tous peinturlurés, c'était très, très sympa. Et voilà, donc maintenant on a des jolis bacs à compost.
Et l'autoproduction de terre a commencé, ça c'est super, ouais. C'est super important quoi.
Voilà.
Des fois après il faudra penser à faire des jardins pour mettre tout ça, enfin c'est à suivre, on en reparlera.
C'est ça.
Merci.
Merci à vous.
Allez hop.
Excusez-moi, je suis un peu lâché.
Naming an emapun, name filmapu. I'll do a fen, tanning a lipoon. Chu a maputan puke, a lia fen rangi when. Hey, mi manga, nganen ye filunga mapu. Kelu afenta wil tu alta ni puche. Pelon tu afenan tu nganen mapu. Chuchirre puta y ni na ya fel. Grief me humanga. mapumanga alken nge ainga ninge lipun Ngela yai manga weda kedangu
sur les 107.5 de Radio Diwa à l'écoute de Feu de Toutbois. On va partir un peu plus loin encore dans des montagnes situées en Amérique du Sud et plus précisément au Chili où le peuple Mapuche, on en a déjà pas mal parlé avec Juan qui est là ce soir, essaye de se faire reconnaître en tant que peuple, de les faire reconnaître ses droits et le fait qu'ils sont là depuis bien plus longtemps que ceux qui sont venus les coloniser. Et il y a tout un tas de luttes qui se déroulent, notamment en ce moment, parce qu'il y a des personnes qui ont été inculpées de meurtre contre un policier, et donc ils sont en grève de la faim, c'est ça, Juan ? Ils sont 4, non ? Ouais, vas-y.
Oui. Et bonsoir et tous les gens qui écoutent Radio Diwa. Merci pour l'invitation, Adrien. Pour pouvoir partager ces infos qui viennent de Chili et puis spécifiquement de qui sont liées à mon peuple, qui c'est le peuple Mapuche. C'est spécifiquement ce qui se passe là-bas, c'est en fait c'est beaucoup de mobilisation par rapport des revendications des terres dans le fond des choses, quoi. Les revendications de récupération des terres qui se sont expoliées par rapport aux multinationales, l'État chilien, qui ça date de longtemps, en fait. Voilà. Et puis, c'est pas quelque chose qui s'est résolu. Il y a. Jusqu'à le moment, il y a des gros problèmes à ce niveau-là. Et par rapport à la façon de comment se développent les choses là-bas, la mobilisation c'est de la part des Mapuches, ça ne va pas et ça ne baisse pas. Parce qu'on n'a rien abouti encore. Et le résultat de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup aussi de la part, la réponse des gouvernements, c'est beaucoup de répression avec la force et tout ça, beaucoup de policiers. Et dans ces situations-là, il y a 4 Mapuches, il y a plusieurs qui sont en prison. Il y a 4 Mapuches qui sont décidés de prendre comme moyen de manifester son mécontent par rapport à sa situation de carcel, de faire une grève, de commencer une grève de faim qui jusqu'à le moment aujourd'hui ça fait 2 mois de grève de faim. Ils sont vraiment très mal. Il y a eu quelques signes hier, cette semaine, de la part du gouvernement. Mais la grève de faim, jusqu'à le moment, ça continue. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de spécifique qu'on peut développer.
Ils sont accusés de quoi, ces personnes-là là ?
En fait, c'est des 4 gens Mapuche qui sont accusés d'avoir fait un attentat contre un chef policier de la zone là-bas, là où il s'est placé la communauté Mapuche, les grosses des communautés Mapuche, c'est la zone de la 9e région là-bas. Spécifiquement, c'est les 4 Mapuches, ça, ils sont pertenant à, ils appartenaient à la communauté Wente Winkul de Ercilla. Et puis voilà, il y a environ 5 points de ces revendications pour lesquelles ils ont décidé de commencer de commencer à faire la grève de faim. C'est l'annulation du jugement des 2 frères Mapuche qui sont Paulino Levipan et Daniel Levino, qui ont été condamnés à 10 ans de prison. Voilà, pour pour la supposition d'être responsable de cet attentat. Et après, c'est l'application d'un traité international que le Chili il a signé. Et c'est le traité 169 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui donne à tous les États de respecter les peuples originaires qui sont à l'intérieur de ses frontières. Et les donner un traité spécial. Voilà. Et le point 3, c'est la fin de l'utilisation des témoins cagoulés pendant les jugements contre les Mapuches. Ouais, c'est à cause de eux que les Mapuches qui sont maintenus en grève de faim, qui sont tombés en tôle, en prison. Et point 4, c'est la plus d'occupation militaire. Pas plus d'occupation militaire sur les communautés Mapuche et la fin, l'arrêt immédiat de la violence policière contre les enfants, les femmes et les anciens. En fait, ils demandent la comment je veux dire, que la police militaire dégage les territoires Mapuche. Et puis le point 5, c'est la liberté à tous les prisonniers politiques Mapuche et la dévolution des territoires qui sont maintenant en bas de contrôle des multinationales forestières. Voilà, c'est à peu près voilà, c'est 100 points pour lesquels les Mapuches qui sont en grève de faim et ils revendiquent. Voilà.
Oui, moi, j'aurais envie de qu'on rentre un peu dans le cœur de la raison du pourquoi il y a cette occupation militaire et policière et pourquoi il y a une répression. Quels enjeux les personnes qui font ça, quels enjeux ils visent en fait?
En fait, voilà, comme je suis déjà venu, je ne sais pas combien de temps, déjà ici à Radio des Voix, on a fait une émission, on a parlé un peu, à grosso modo, moi j'ai fait une espèce de résumé de l'histoire politique et culturelle de Mapuche, et envers l'État chilien, et puis argentin aussi, parce que côté argentin aussi, il y a des Mapuches. Et puis, à grosso modo, pour être bref, le problème, ça date à partir de la création des 12 États. Et voilà, on a eu. Ça date de la. Au début, c'est la colonisation espagnole, mais ça arrête. Il y a eu une étape là où il y avait une espèce d'équilibre des traités de territoire entre les Espagnols à l'époque là et les Mapuches de cette époque là aussi, ça veut dire jusqu'à 1810 à peu près quoi, qui sont commencé les débuts, la création des différents États sud-américains. C'est là que les Mapuches ils ont perdu le contrôle de son territoire, qui avant, même avec les Espagnols, ils sont conservés comme un territoire autonome avec ses propres structures de contrôle à l'intérieur, avec sa institution de commandement politique, social en fait quoi, et puis sa façon de faire l'économie et tout ça. et puis son spécificité culturelle, langue, religiosité, tout ce qui va avec, quoi. Un peuple, en fait. Et puis, ce qui s'est passé, à grosso modo, après que les Chiliens et les Argentins sont déconnus complètement ce traité territorial qu'ils avaient signé les Espagnols avant. Et à partir de là, on est complètement passé à être chilien ou argentin. Ça veut dire, voilà, on parlait avec, on a perdu tout ce qu'on a perdu dans la façon, dans l'idée de, comment dire, administrative. On n'avait pas le droit de parler la langue, on n'avait pas le droit de s'habiller de la manière mapuche, et on n'avait pas le droit de faire des cérémonies, ce qu'on faisait avant de façon libre et autonome, quoi. À partir de là, le gouvernement chilien a implémenté toutes ces espèces de symbologies qui faisait que les pays soient unilatéralement, il n'y avait aucune autre différence à l'intérieur, il n'y avait aucune autre culture, quoi, qui soit d'origine occidentale espagnole, la langue espagnole, et pratiquer la religion catholique, quoi. Voilà. Et puis avoir un drapeau, chanter l'hymne national, machin.
Et au niveau, ça, parce que bon, mais c'est ça image l'envie d'effacer toute une identité culturelle existante. Et derrière, est-ce qu'il y a un enjeu financier, j'imagine, derrière? Il y a quelque chose à récupérer pour ces gens-là, ou politique, est-ce qu'il y a des ressources qui sont convoitées par le biais de ce harcèlement? Parce que cela, ça a l'air d'être un harcèlement, en fait.
Et ben, c'est justement, c'est le problème, c'est se pose de façon, pour nous, le problème Mapuche, c'est un problème d'identité politique et culturelle et économique à la fois. Pour le gouvernement et l'État chilien, c'est plutôt un problème économique, d'invertissement, en fait. Problème économique, il y a une grosse pression des multinationales. Et des caractères extractifs, en fait, d'extraction minérale sur le territoire, et d'exploitation forestière, et d'exploitation de la mer aussi, parce qu'il y a bas, dans la partie où il y a des Mapuches, il y a en bas un bon kilomètre, une bonne quantité de hauts marins, des plages à exploiter, et puis. C'est les Mapuches qui, normalement, ils vivent de la pêche, quoi, aussi, quoi. Alors, ça aussi, ça fait partie de la politique économique libérale de l'État chilien, quoi.
Oui, c'est ça.
Alors, il y a une grosse pression de la politique économique de l'État chilien et du gouvernement maintenant mis en place, qui fait qu'on ne voit pas vraiment une solution à ce problème-là. Il y a un problème économique derrière, et soutenu pour tous les gros multinationales d'origine capitaliste. Et puis le gouvernement est mis en place, il fait la pression, il fait les flics, quoi.
Oui, c'est ça, en fait, là,
Voilà.
l'exemple de cet emprisonnement
Voilà.
avec la mise en accusation, c'est exactement un moyen de pression, en fait, pour vous faire céder, quoi, pour faire céder le peuple mapuche.
Oui, voilà, mais c'est pas la première fois qu'il y a une grève des femmes des Mapuches.
Oui, bien
Il
sûr,
y
j'imagine bien, ouais.
en a eu plusieurs, quoi. Et je pense que ça va pas arrêter là, quoi.
Mmh.
Mais justement, moi, à chaque fois que je suis venu ici, là, c'est juste l'idée de partager ce qui se passe là-bas. De faire savoir que même si on est loin de là, et le système, soit ici, soit là-bas, ça fait des dégâts, mais de différentes manières, quoi. Voilà, il y en a qui, des fois, voilà, ce qui passe en Nantes et de l'Inde, c'est une démonstration de ça arrive chez les Mapuches presque tous les jours là-bas. Quoi. On parle à ce niveau-là, c'est ça que je parle de différentes manières. Quoi. Là-bas, c'est quotidien, les occupations militaires, les braquages de la police pour chez les Mapuches, les maisons et tout, en train de pour inculper les gens, quoi, pour ne pas la laisser vivre. Et en train d'harceler les familiers, les familiaux qui sont des gens qui sont en prison pour couper un peu les soutiens, quoi, parce qu'il y a un gros soutien aussi quand même au Chili de tous les grévistes qui sont maintenant en train de faire la grève des faim. Et puis à niveau international aussi, il y a chaque fois qu'il y a des événements comme ça, il y a pas mal de soutien aussi par rapport aux les assos qui sont engagés. Ils sont en contact direct et constamment au Chili avec les différentes organisations mapuches aussi. D'accord. Voilà.
Et là, dans ce cas précis, en fait, c'est la mort de ce policier est vachement liée à l'occupation militaire qui est présente là-bas. Est-ce que tu peux, je sais pas, parler du contexte un peu, comment ça s'est déroulé ça?
Oui, en fait, c'était justement dans une occupation militaire qui, c'est une occupation militaire policière. Si on parle des militaires, en fait, là-bas, c'est pas vraiment les militaires qui sont de l'armée, qui sont prêts pour aller faire la guerre avec un autre État. C'est des CRS, mais avec de l'époque de Pinochet, en fait, hein, de l'époque de la dictature. En fait, c'est vraiment des militaires, quoi. Voilà, entraînement militaire, pas pour contenir une chose, c'est pour réprimer et puis préparer, entraîner pour au cas où tuer des gens. Quoi. Alors, c'est ça la différence entre la police de prévention et la police de répression. C'est vraiment CRS militaire. Quoi. Nous, on parle de ça, en fait. La militarisation des communautés mapuches, ça fait partie de ça, quoi. Alors, là où il s'est passé l'événement, ça est devenu quotidien des occupations de cette espèce-là. Et il y a beaucoup de... L'ambiance, c'est vraiment une ambiance de guerre pratiquement, parce qu'il y a aussi... Dernier moment, il y a une année, quoi, que ça commençait a mis en place un groupe clandestin aussi paramilitaire de la part des agriculteurs, des gros agriculteurs et des gardiens forestiers, quoi. Alors, ça veut dire qu'eux, ils sont en train de son armée pour réprimer quelle que soit manifestation mapuche et tout ça. Et ils travaillent à côté de la police chilienne, quoi. Et donc, dans ces cas-là, dans ces situations-là, les Mapuches, ils se laissent pas faire non plus. Parce que bah, je pense que dans une situation comme ça, je pense qu'aucun groupe humain ne peut se laisser faire. Il va se battre pour défendre sa famille, ses enfants, ses anciens qui sont en train d'être maltraités pour des agents de l'État ou quelque que soit paramilitaire qui défendent ses intérêts économiques, quoi, que ça n'a rien à voir avec un intérêt plutôt de la vie quotidienne, quoi. Alors, dans cette situation-là, le Mapuche, il prend de l'autodéfense, quoi, jusqu'au moment, mais pas avec des armements, c'est que des bouts de bâton et des cailloux, quoi. Alors, ce que le gouvernement il cherche, en fait, c'est ramener les Mapuches vers la prise d'armement pour avoir une espèce d'argument pour réprimer encore plus violentement et pour pas aboutir à avoir une résolution d'ordre pacifique et politique, quoi. Parce que ça, eux, ils n'ont aucun intérêt de donner, que c'est la dévolution des territoires, perdus pour les Mapuches, que maintenant ils sont contrôlé pour les multinationales forestières et les gros agriculteurs, quoi. Alors, eux, ils ne voulaient pas arriver à cette pourparlers. Et pour ça, ils cherchaient dans tous les moyens à casser toutes les façons de présentation, des idées de dialogue que les Mapuches sont présentés jusqu'à le moment. Et dans ces cas-là, dans ces cas-là, et puis, il y a eu 3 mois, quelque chose comme ça, il y a eu une occupation de la part des policiers, et puis là, il y a eu, de façon très bizarre, il y a eu un flic mort, quoi, un policier mort, d'une balle dans la tête, qui, jusqu'à moment, il n'y a aucune preuve de que c'était une balle de Mapuche, quoi. Il y a eu différentes situations là où il y a les mêmes policiers se sont auto
entretués, quoi.
Voilà, ils ont essayé de se faire créer des accidents et
ouais, ils vont très loin, quoi. Les tous les moyens sont bons pour accabler ce peuple qui résiste, quoi.
Oui en non fait, là on
c'est
est
vraiment, c'est violent, quoi. Très très violent.
C'est très violent et puis ben, c'est très sale en fait dans cette situation-là. Ouais. Et tous les Mapuches qui sont en prison, ils sont aucune participation dans cet événement, quoi. Ils ont participé, mais dans des manifs, comme je vous dis, dans ces caractéristiques-là. Et puis ils n'ont aucune preuve. Et puis pour faire plus cinématographique les choses, ils utilisent la loi qui est une loi héréditaire de l'époque de Pinochet qui permet l'utilisation des témoins cagoulés, qui normalement c'est toujours des flics. Oui. Et puis que nous on ne les voyait pas, et puis lui l'accusait, ceux qui étaient en train d'être accusés, ils ne savaient pas c'est qui est en train d'accuser. Parce qu'il est cagoulé, et puis il peut dire n'importe quoi. Et de cette manière-là, ces gens-là, les témoins cagoulés, c'est écouter pour les juges. Les juges, ils mettent sa peine, et puis voilà.
Et là, ils sont accusés, mais ils n'ont pas été encore inculpés, quoi.
Il y en a deux pour lesquels Paulino Levipan et Alain Levinan, ils ont été déjà condamnés. Et à 10 ans, un jour, quoi. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de prendre la grève des femmes pour essayer d'annuler ce jugement, avoir un nouvel jugement, sans le témoin cagoulé. Il y a eu cette semaine une réponse de la Cour suprême, qui est le maximum tribunal de justice à Chilien, qui ont dit oui à l'annulation de ce jugement.
D'accord.
Alors ça veut dire qu'il y aura un nouveau jugement pour eux, et peut-être le plus possible c'est qu'eux puissent sortir de la prison et être en liberté, après qu'ils vont être en bonne santé. Voilà.
Ok.
Et si j'aurais une petite dernière question dans le mouvement de lutte. Donc il y a le mouvement de lutte sur place, des personnes qui sont déjà qui sont pris à partie, mais au niveau politique, est-ce qu'il y a un rassemblement politique ou une prise de conscience de certains élus politiques qui essaient de manœuvrer pour que le peuple Mapuche puisse avoir reconnaissance sur ses droits? Et est-ce que le peuple a quelques hommes influents ou femmes influentes sur l'État en place pour résister?
Il y a eu jusqu'à le moment, il y a en fait le Chili à niveau politique, je sais pas, c'est un peu complexe la situation, comment ça a évolué à niveau des partis politiques. Donc, c'est un peu aussi l'histoire d'avoir hérité un système qui n'a pas changé par grand-chose depuis que Pinochet est parti, en fait.
D'accord.
C'est un système démocratique, quoi, mais un peu blanchissé, on peut dire. C'est blanchi. Un système militaire dictatorial, blanchissé en démocratie, quoi.
D'accord.
Alors, il y a un système binominal, ça veut dire qu'il y a deux grands groupes de partis qui à l'estilo américain en fait. Les partis politiques, les partis, ils sont presque rien, aucun poids.
D'accord.
Alors soit tu es dans les deux gros agglomérations des partis politiques, quoi. Il y en a, c'est l'extrême droite et tout le reste, quoi, compagnie. C'est les conservateurs et tout. L'autre côté, c'est il y a les social-démocrates, quoi. Il y a socialistes, les nouveaux socialistes, en fait. Il n'y a pas les socialistes de l'époque Allende, en fait. Après, il y a la démocratie chrétienne, tout ça, mais c'est des centres à droite, quoi, en fait. Voilà. Après, voilà, il y a... Pour être bref, il y a le Parti communiste qui essaie de rentrer dans le système, mais qui n'a pas trop de proies non plus. Après, voilà. Alors, pour te dire, soit tu appartiens à cette. De certaine manière, tu adhères, tu acceptes la condition de tout ce parti politique pour te battre dans le système, à l'intérieur du système chilien, là, pour te faire écouter. Ou soit tu es dans le système, et là tu n'es pas écouté du tout. Alors ça veut dire. Voilà,
en fait, cette voie-là, elle n'est pas, voilà. pas opérationnelle en fin de compte. Quoi. Actuellement, il n'y a pas de moyen de pression. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, quoi, visiblement, vu ce que tu expliques.
Bah, c'est complexe, parce qu'après, on compte seulement un peu par rapport à la. On va dire la. Comment dire, la solidarité un peu par rapport au, comment c'est le mot en français, de certains députés qui sont qui d'abord ils défendent les intérêts de ses partis, de son parti d'abord, et après il y a un mot pour les Mapuche en fait. Il n'y a pas un représentant, pour te dire, il n'y a pas un représentant direct qui soit Mapuche.
Oui, oui, bien sûr.
Parce que les Mapuches ne vont pas rentrer dans le système s'ils n'acceptent pas la règle du jeu. Quoi. Et la règle du jeu, si tu l'acceptes, ça veut dire que tu renonces à tout ce qui est cette revendication. C'est la contradiction, en fait. Ça n'empêche pas qu'il y a des agrupations Mapuches qui sont en train de... d'essayer, mais qui sont essayés déjà, tu vois, mais ils sont pas réussis à rien du tout. C'est des choses symboliques, ça peut y être, mais dans la façon pratique, on est dans le même endroit qu'on était il y a quelques années avant, quoi.
Alors, voilà. Par rapport à ce que tu décris, comme on avait déjà parlé à Feu de Tout-Bois, et on l'a mis comme ça, comme une offensive du capitalisme et du pouvoir colonisateur sur des terrains qui sont à exploiter. Il y a aussi en Argentine, au Chili ou dans toute l'Amérique du Sud, pour les gens qui sont proches, des mouvements révolutionnaires qui se battent contre le capitalisme et les États en général, et qui soutiennent les mouvements Mapuche et qui n'ont pas du tout envie d'en passer par des solutions, qui n'ont pas d'espoir dans les solutions partisanes comme tu les décris, parti de semi-droite ou parti de semi-gauche ou je ne sais pas quoi, et qui disent en fait soulèvement général, détruisons les prisons, détruisons les États et libération totale. Du coup, est-ce qu'il y a au Chili aussi des mouvements qui sont plus nationaux ou internationaux et qui sont a priori... solidaire avec les Mapuches, avec tous les peuples qui se battent.
Oui, au Chili, en tout cas, moi je peux parler au Chili, je connais mieux. Après, je sais que dans les autres pays aussi, il y a des mouvements alternatifs qui sont plusieurs, quoi. Et plusieurs des groupes anarchistes, des groupes féministes, des groupes... et de plusieurs tendances en fait qui sont critiques des systèmes mis en place, qui sont suivants et accompagnent dans les manifestations Mapuche pour soutenir et tout ça. Et voilà, non, là il existe cet moment, mais même pour les mouvements sociaux chiliens aussi, il y a un fort moment que ça commence à prendre ampleur par rapport aux revendications, pas seulement pour les Mapuches, mais pour la population en général de Chili. Côté argentin, j'entends aussi qu'il y en a, mais ça, je peux pas trop parler, je connais pas trop bien là-bas. Et je sais qu'il existe des mouvements alternatifs, comme des syndicats qui sont pas vraiment liés au pouvoir, quoi. Voilà.
Et puis des voix qui s'élèvent, il y a la tienne ce soir, Juan, sur Radio Diwa. C'est hyper modeste, mais moi je suis persuadé que la radio est une arme et que voilà, en plus c'est une arme qui fait pas de mort et t'es pas là pour rien, on n'est pas là pour rien non plus et ça participe à la libération.
Oui, et puis moi je suis très content d'avoir venu et puis merci pour l'invitation, Adrien. Et puis voilà, c'est l'idée, comment je veux dire, je répète, c'est partager ce qui passe là-bas. Et aussi, j'ai aucune proposition maintenant, comment on peut vraiment les gens qui voulaient vraiment s'intéresser et s'engager à être solidaires. Je vous dis seulement qu'il y a des sites sur Internet, vous pouvez cliquer ma poche et vous pouvez trouver des sites en français, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais s'il y en a, je sais qu'il existe. Là, des fois, il y a des idées comment envoyer peut-être un petit email, par exemple, au président de la République. Ça. Si c'est en plusieurs emails à la fois, ça peut faire quelque chose, quoi. Ou un petit lettre au ministre de Justice, une chose comme ça. Voilà. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Dès qu'il y a quelque chose de plus précis, je vais venir de nouveau à la radio et puis on va partager encore plus. Merci beaucoup.
Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.